Chères auditrices et chers auditeurs, avant de vous laisser écouter cet épisode, l'équipe Cultura et moi-même tenions à vous informer que la communauté Cultura Créa ferme ses portes fin avril 2024 pour mieux se réinventer plus tard. Nous vous remercions donc très sincèrement pour toutes vos écoutes du podcast, vos retours et votre bienveillance à l'intention des créatifs qui sont passés au micro du podcast. Membres de la communauté et collaboratrices et collaborateurs de Cultura, un grand merci à vous pour cette expertise et cette passion partagée autour du DIY et des beaux-arts. Nous nous sommes régalés. Du côté du podcast, les épisodes restent en ligne, donc vous pouvez continuer d'écouter ou de réécouter les épisodes autant que vous voulez. Je vous invite par exemple à écouter les épisodes autour du macramé, des mangas, de l'argile, des feutres à alcool, de la broderie, du moulage de savon et de bougies, ou encore du tricot. Vous ne devriez donc pas manquer d'inspiration créative pendant les prochains mois. On vous donne évidemment rendez-vous sur cultura.com pour la suite des aventures. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cultura Créa. Je m'appelle Mélanie Sena et je suis ravie de vous retrouver pour parler loisirs créatifs et beaux-arts. Deux fois par mois, je partage avec vous des rencontres avec les équipes de Cultura et avec les membres de la communauté Cultura Créa. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, que vous préfériez créer seul ou en famille, nous vous parlons de tous ces arts créatifs que vous aimez. Aujourd'hui, nous partons découvrir le monstre des feutres à alcool, largement plébiscité pour les mangas. C'est Isa, qui travaille au rayon Beaux-Arts du magasin Cultura de Creil, qui nous dit tout sur le sujet, côté matériel et inspiration. Bonne écoute! Bonjour Isa, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Cultura Créa, bienvenue!
Bonjour, merci!
Alors, aujourd'hui, on va parler de feutre à alcool et de l'univers des mangas avec toi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi?
Je m'appelle Isa, je travaille dans ce Cultura depuis presque 5 ans maintenant, toujours au rayon du Beaux-Arts. Je suis extrêmement passionnée de tout ce qui est art créatif en général et surtout les techniques Beaux-Arts. Le dessin au marqueur qui m'a séduite il y a quelques années et j'en pratique énormément aujourd'hui, mais aussi l'aquarelle, l'acrylique et aussi le dessin numérique. Je pratique énormément de choses et le manga au feutre a effectivement beaucoup de petits secrets et de petites pépites à partager, donc je suis là pour les partager aujourd'hui avec vous.
Génial, et donc tu es au magasin de Creil, Cultura oui. De Creil dans les Hauts-de-France.
C'est ça.
Parfait. Alors déjà, comment tu as appris à dessiner et comment tu es arrivée chez Cultura? Parce que souvent, avec tous les épisodes que j'ai fait jusqu'à présent pour Cultura, bah, je me rends compte qu'il y a une vraie passion artistique souvent qui est préexistante au fait de venir travailler chez Cultura. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi?
Complètement, j'ai été recrutée pour ça en fait.
Ah ouais.
J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours eu un crayon dans la main, aussi loin que je puisse me rappeler. J'ai pas toujours voulu faire du dessin un métier à proprement parler, mais j'avais pas vraiment d'autres idées, et comme c'était tout ce que j'aimais faire, je me suis lancée là-dedans, d'abord en micro-entreprise, et puis par choix de stabilité, on va dire, quand j'ai su que par une amie, qu'il y avait un poste au rayon Beaux-Arts de Cultura, qui est un magasin dans lequel je passais déjà énormément de temps, j'ai dit « Ok, bah j'arrive, il n'y a pas de problème. »
C'est pour moi, bougez plus.
C'est ça. Et mon profil extrêmement créatif, justement pour le rayon Beaux-Arts dans lequel il y avait une place, a beaucoup plu à mon chef de l'époque. Et effectivement, le courant est très bien passé avec toute l'équipe et aussi avec le rayon.
D'accord, génial. Donc ça fait 5 ans.
Ça fait 5 ans.
Et tu es de la région, hein?
Oui, j'ai grandi à Compiègne, j'habite juste à côté de Creil aujourd'hui.
Ok, très bien. Et alors, aujourd'hui, donc, tu nous disais que tu aimes beaucoup dessiner. Là, en ce moment, qu'est-ce que tu explores en particulier? Alors, est-ce que c'est les feutres à alcool ou est-ce que c'est... Tu parlais aussi de dessin numérique?
Oui, le dessin numérique, je suis tombée dedans. Après le lycée, j'ai fait très rapidement des études de dessin, bon, qui finalement ne m'ont pas forcément plu. Mais j'ai appris à me servir d'une tablette graphique qui, à l'époque, c'était encore un petit peu... Ouais. Un petit peu rare, on va dire, il y a 15 ans, dans le milieu scolaire. Et j'ai adoré le rendu. Je suis tombée sur un logiciel qui me correspond au niveau du dessin, parce que c'est pas la tablette qui fait la différence, c'est vraiment le logiciel.
D'accord.
Et oui, c'est là où j'ai le plus de possibilités, puisque en dessin numérique, si l'ordinateur suit, la seule limite que tu as vraiment dans ton dessin, c'est ton imagination. Alors que à l'aquarelle, tu es limité par les propriétés de l'aquarelle, à l'acrylique également, en termes de rendu. Tu peux tout faire à l'ordinateur,
oui.
Y compris du manga et du rendu feutre.
Oui, parce que effectivement le dessin sur le papier, bah, une fois que tu as mis un trait de crayon de trop ou un coup de pinceau de trop...
C'est difficilement rattrapable. Selon les cas, ça marche pas.
Voilà.
ce qui effectivement est beaucoup plus jouable avec le dessin numérique. Et le logiciel dont tu parlais, que tu utilises, c'est lequel ?
Alors, celui auquel moi je suis accro, c'est Benstoolsai. C'est un logiciel japonais spécialisé dans le dessin et la mise en couleur, alors d'épisodes de manga ou autres. Mais je trouve que dans la fluidité du trait et la beauté du rendu des couleurs, je trouve qu'il y a quelque chose de plus fluide qu'avec les autres logiciels. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne mieux.
D'accord. Et donc, tu travailles avec un stylet sur une tablette graphique, c'est ça, qui est branchée à ton ordinateur ?
Initialement, c'était ça. Là, depuis quelques années, j'ai une tablette graphique qui est un ordinateur. Donc, je dessine directement sur l'écran de l'ordinateur. C'est plus de confort, on va dire. Du coup, une tablette à écran, ça change pas la performance. Dans tous les cas, c'est l'artiste et la main de l'artiste qui va faire le travail, mais ça change le confort de travailler, puisqu'on a la pointe du stylet qui est déjà sur le dessin et qu'on voit en temps réel. On n'a pas ce très léger décalage qu'on peut avoir à dessiner sur une tablette en regardant un autre écran. Certains y trouvent de l'inconfort. Moi, ça m'a jamais dérangé, mais c'est vrai qu'il y a, un petit plus à travailler directement sur un écran qui répond, qui est interactif.
D'accord, ok. Bon, alors ça déjà c'est hyper intéressant de voir un petit peu les dessous du dessin numérique. Et alors si on est plutôt encore, j'allais dire à l'ancienne, mais c'est pas du tout à l'ancienne, c'est finalement la base du dessin, c'est quand même un papier et puis des outils.
Différents outils, oui, énormément d'outils. Si on prend la peine de se lancer dedans, ça va très très vite parce que on se dit il me faut ça, je peux utiliser ça, ça serait bien aussi, ça c'est une option mais j'aime bien, et finalement on se retrouve avec une pièce entière remplie de matériel de dessin avec des étagères partout. Chez moi j'ai un atelier. J'ai même deux ateliers.
mais c'est clair. Mais c'est aussi des possibilités infinies,
oui,
finalement.
Tout à fait.
Bon, alors, qu'est-ce que tu nous conseilles quand on a envie de dessiner des mangas ?
Eh ben, pour du manga ou autre, le conseil sera toujours la même chose. Ça va être, si on veut redessiner et apprendre à le faire correctement et de mieux en mieux, ça va être phase 1, l'observation. Vraiment regarder comment les choses sont construites, comment les choses sont faites, comment un tel dessine ça, comment un tel dessine ça, avec chacun son propre style. Et puis ensuite, ça va être l'analyse dans la reproduction. Plus on regarde et on reproduit, plus on comprend comment sont faites les choses, et plus on le fait de manière naturelle. C'est-à-dire qu'au départ, si je veux dessiner une main, et que je me lance comme ça directement sur le papier à vouloir faire un produit fini, ma main va ressembler à rien, il va y avoir des doigts en forme de saucisse, il ne va pas y en avoir deux dans la même direction. Ça va être un petit peu n'importe quoi. Alors que si je prends le temps d'observer la main, la structure de la main, d'essayer de voir peut-être avec un livre d'anatomie en soutien où sont les os pour éviter de placer tout ça n'importe comment, eh bien en plaçant la structure d'abord, donc la forme de la paume, puis les os qui vont donner la direction aux doigts, etc., et en analysant la taille des doigts, eh bien finalement, avec tout ça en base d'observation, puis en prenant le temps de construire avant d'avoir le dessin définitif, la main va être déjà beaucoup plus réaliste, même sans avoir forcément eu énormément d'entraînement, avec l'observation et en prenant le temps de bien faire, de bien construire, ça sera déjà mieux. Donc mon conseil, c'est observer et pratiquer. Vraiment pratiquer. C'est comme le vélo, c'est comme le patin à glace, c'est comme absolument tout si on veut aller loin. Ça va pas venir du premier coup, rarement en tout cas. Je suis pas un gamin de 4 ans qui jouait du Beethoven sur un piano. J'ai appris comme tout le monde sur la durée à perfectionner ce que... Alors j'ai une facilité, mais comment dire, je vais pas appeler ça un talent, parce que pour moi le talent c'est plus l'envie de le faire. Et c'est le talent qui nous fait, c'est le talent et la passion qui nous fait revenir, l'envie de le faire qui nous fait revenir dessus et continuer, et c'est ça qui fait qu'on va y arriver et surtout qu'on va progresser. Donc surtout la pratique, il n'y a pas de secret.
Moi, c'est ce que j'arrête pas de dire à ma fille, parce que j'ai deux filles, mais la grande fait beaucoup de dessins, et des fois, elle est satisfaite d'elle, d'autres moins, je dis, mais c'est pas grave, il faut continuer, en fait, et c'est comme ça.
C'est complètement normal.
Voilà.
Et c'est même bien, parce que le fait de pas être satisfaite, si elle arrive à identifier pourquoi elle est pas satisfaite, qu'est-ce qui la dérange dans le dessin, est-ce que c'est les yeux qui sont de travers, est-ce que c'est le sourire qui convient pas, et ben elle a une direction dans laquelle travailler pour améliorer le dessin. Donc il faut juste avoir la volonté de le retravailler derrière, de le reprendre. Mais oui, c'est de la patience et de la persévérance dans tous les cas.
Oui, voilà, persévérance, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure. Je me disais, c'est aussi de la persévérance,
C'est ça, puis on n'arrête jamais. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai toujours voulu faire des expos style Japan Expo. Quand j'étais enfant et ado, j'allais à Japan Expo. Alors forcément, quand j'étais ado, les mangas, ça sortait. Il y avait One Piece qui venait de sortir. Il y avait mon premier manga, ça devait être un truc d'ado, ça devait être Fruits Basket. Il y avait Full Metal Alchemist qui venait de commencer, qui est le plus beau manga du monde, si je peux me permettre de donner un avis. Et du coup, j'étais à fond dans le manga, donc j'ai commencé en dessinant que du manga, en reproduisant tous mes héros préférés. Et donc, j'allais à Japan Expo, etc. Et à Japan Expo, je suis tombée dans le carré des artistes créateurs qui faisaient leurs propres illustrations, manga ou pas. Et j'ai trouvé ça fou, je suis restée là-dedans toute la journée, mais juste dans ce coin créateur, et je me disais, mais je veux faire ça au moins une fois dans ma vie.
Mmh.
Et du coup, depuis 2015, je fais la Japan Expo tous les ans, avec mon propre stand.
Oh, purée.
Et je présente mes illustrations de mon univers personnel. Donc au début, il y avait aussi un petit peu de manga, un petit peu de ce qu'on appelle du fan art, donc c'est quand on fait hommage à nos personnages préférés. Et petit à petit, le fan art exit le stand pour laisser place à mes créations, à mon univers personnel. Et c'est comme ça pour tous les artistes. Le but, c'est de réussir à faire, à vendre et à vivre uniquement avec des créations personnelles et pas avec des choses commerciales, entre guillemets, qui vont plaire à tout le monde, comme en ce moment l'Attaque des Titans, My Hero Academia, etc. On m'en demande beaucoup sur les expositions, mais finalement, les gens qui m'en demandent, ils sont pas forcément déçus quand je leur dis que j'en ai pas, parce qu'ils regardent quand même le reste, ça leur plaît. Et donc oui, le manga m'a attiré là-dedans. Et finalement, aujourd'hui, j'ai plus forcément un style manga. On sent l'inspiration, mais on sent aussi d'autres inspirations, un petit peu d'envie de réalisme, etc. Et je sais plus du tout comment on en est arrivé à parler de Japan Expo.
Si, ton rêve d'enfant qui était la Japan Expo. Mais j'adore ce genre d'histoire, de dire, t'as un truc en tête et ça te guide pendant des années et jusqu'à
ce que tu le fasses. Ah oui, je voulais absolument essayer de faire ça. Et aujourd'hui, des expositions, j'en fais énormément. Toute l'année, on en trouve un petit peu, surtout en région parisienne, il y en a beaucoup. Puis vu que je suis proche région parisienne, c'est là où il y a des occasions. Mais en vrai, quand on prend la peine de chercher, il y en a partout à travers la France et toute l'année des expositions.
Autour du Japon, du manga, tout ça ?
Oui, alors du coup, je fais plus des expositions axées sur le manga, puisque c'est le genre d'exposition qui est le plus bienveillant envers les artistes illustrateurs, qu'ils fassent du manga spécial ou non. C'est-à-dire que même avec un style semi-réaliste et très très fantasy plus que manga, jamais on m'a dit « Oui mais non, t'es pas manga, tu as pas ta place là en fait ». C'est pas aussi sélectif que certaines choses comme peut-être Comic Con qui va plus prendre des artistes comics, et c'est bien normal en fait. Mais tout ce qui est manga met en avant les illustrateurs, qu'ils fassent du manga ou pas.
Ouais, d'accord. Et alors, quels sont tes outils, ton matériel préféré pour créer ? Est-ce que, tu parlais tout à l'heure, tu faisais parler avec l'aquarelle, est-ce que pour dessiner, c'est pareil, la qualité du papier est primordiale ?
Oui, que ce soit de l'aquarelle, de l'acrylique, du dessin, du fusain, tout ce que tu veux, le papier fait une énorme différence. Et c'est ça que les gens ne pensent pas souvent à ça. Souvent, on se dit, je vais acheter un bon feutre de qualité, et puis le papier, je vais prendre le papier d'imprimante à la maison.
C'est ça, ouais.
Faites surtout pas ça.
Ah ouais.
Surtout pas, parce que avoir un bon outil sur le mauvais papier, c'est un coup à se dégoûter de la pratique, parce que ça va pas fonctionner correctement. Faire de l'aquarelle sur un papier d'imprimante, c'est la pire idée du monde. Le papier d'imprimante, il va se gondoler, il va se rétracter dans tous les sens, ça va sécher tout de suite, il n'y aura aucun mélange qui va se faire, et en plus, ça va éventrer la feuille parce qu'elle gère pas l'eau. Et c'est un coup à se dire, l'aquarelle...
C'est pas pour moi.
C'est pas terrible, hein. Alors qu'en vrai, sur un bon papier...
Bon, alors je vais faire un mea culpa public et je m'engage à faire différemment pour ma fille, toujours la même, qui fait pas mal de choses créatives. Effectivement, je vais arrêter de lui donner le papier pas cher pour faire de l'aquarelle, et je vais lui donner le vrai papier que j'ai en plus. Bon, et alors pour le manga, parce que donc, comme je te le disais avant qu'on lance l'enregistrement, elle fait aussi donc du dessin manga. Et d'ailleurs, tu me donnais un bon conseil, on va en revenir après dessus. Qu'est-ce que je prends comme papier pour du dessin ? On va parler plutôt feutre à alcool.
D'accord. Alors, pour les feutres à alcool, il y a deux papiers qui sortent du lot. Il va y avoir le papier Bristol, qui est un papier blanc très très lisse et assez épais en général. C'est un papier qui va bien permettre notamment les mélanges de couleurs qui vont se faire assez facilement sur le papier Bristol. Son désavantage, c'est que comme le papier, quand son classique, Quand je dis papier Canson, c'est le papier un petit peu épais. Hein. En vrai, c'est une marque. Canson est une marque et fait énormément de papiers différents, aquarelles, marqueurs, etc. Mais ce que les gens entendent en général par papier Canson, c'est un papier à grains un petit peu épais.
D'accord.
Donc ce genre de papier-là, pour les marqueurs, c'est pas conseillé. Parce que le grain du papier va esquinter la mine.
D'accord.
Plus rapidement qu'avec un papier lisse. Donc là, on a vraiment besoin d'un papier lisse pour la durabilité des feutres. Le papier normal va absorber l'alcool du feutre, qui est composé d'alcool et de pigments, et pas d'eau et de pigments comme les feutres classiques. D'accord. Ça va absorber l'alcool qui va avoir aucune barrière dans un papier qui est pas fait pour le recevoir. Du coup, l'alcool va se répandre très très vite en dehors de la zone où vous l'avez répandu. Et aussi à travers le papier.
Oui.
Si je fais une illustration sur du papier Canson normal à grains, en mettant 4-5 feuilles d'épaisseur, si je fais une illustration en chargeant bien, je vais avoir traversé ces 5 feuilles d'épaisseur. Je vais en mettre partout sur la table. Ça traverse énormément.
D'accord.
Le papier Bristol, il est lisse, donc il abîme pas le feutre. Il retient mieux l'alcool. Cela dit, c'est pas parfait. Son petit défaut, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il me fait un petit peu penser à ces papiers à grains plus classiques, c'est qu'il bave quand même encore un peu. On peut traverser sur du papier Bristol, et on peut aussi avoir cette tache de couleur qui s'élargit, malgré nous.
D'accord.
Et du coup, vient ensuite le papier layout, qui est plus récent et plus adapté aux besoins de précision qu'on a quand on fait du feutre à alcool. C'est-à-dire que le layout, c'est un papier toujours très très lisse, hein, forcément, et extrêmement fin, qui est composé de deux couches. Tu as la couche supérieure qui absorbe l'alcool et l'empêche de s'évaporer trop vite. Donc là, on a plus de temps pour travailler confortablement nos aplats, nos dégradés, etc. Et la couche d'en dessous, elle est complètement imperméable.
Donc ça transperce pas, donc du coup, ça ne transperce pas. Voilà. Okay.
Avec un bon papier layout, impossible de transpercer sur la feuille d'en dessous. J'arrive à passer au travers. Mais quand j'y vais vraiment très 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 généreusement, quoi.
Oui.
Quand je laisse aucun répit au papier et que j'y vais couche sur couche sur couche sans laisser sécher, ça peut traverser éventuellement, mais normalement, en travaillant intelligemment, on fait pas ça. donc normalement, non. Ça limite aussi l'étalement sur le côté.
D'accord.
Ça vient quand même quand on charge trop, mais ça vient moins rapidement. Donc c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus précis également.
Ok, et alors côté feutre, est-ce que tu as, pareil, des bons conseils d'expertes ?
Des conseils pour choisir les feutres ? Non, pas forcément, parce que tous les feutres sont constitués de la même manière. Les feutres à alcool ont tous deux pointes, une plus fine et une plus large.
D'accord.
De manière générale, les deux pointes sont dures, bien fermes, donc une très très fine pour la précision, et une plus large, environ 5-6 mm de large, elle est biseautée, pour aller faire des plus grandes zones.
Mmh.
Tu as certaines gammes de feutres qui proposent une pointe différente, notamment donc au niveau de la pointe fine, qui va devenir une pointe pinceau, souple.
Oui, d'accord.
Et là, la souplesse, c'est une autre expérience. Ça change tout, c'est plus confortable, c'est plus doux en matière de travail général, et ça apporte une autre facilité pour faire des petits dégradés et des changements de couleur. C'est-à-dire que si tu laisses ta pointe appuyée un petit peu plus longtemps, tu vas avoir une zone plus chargée en couleur, un petit peu plus sombre. Alors que si tu relèves rapidement ton pinceau, le fait qu'il soit souple, ça va faire tout seul un dégradé.
D'accord, ok.
Il existe aussi une gamme avec une pointe super fine chez Graphite, si je dis pas de bêtises. En gros, les gammes avec la pointe normale sont toutes les gammes débutants et professionnels classiques. Et tu as des pointes broches chez ProMarker, chez Graphite et chez Copic. Alors j'en oublie certainement puisque je connais pas toutes les gammes du marché. Mais de ce qu'on a chez nous, chez Cultura, en tout cas, ProMarker, Graphite et Copic.
D'accord. Et alors après, vient forcément aussi en ligne de compte le coloris, la nuance de couleur par rapport à ce qu'on a envie, l'univers dans lequel on veut être, quoi.
Oui, c'est pour ça que en rayon, en baladant en rayon, déjà tu trouves énormément de marques. Hein, tu as Mona Lee, la marque du magasin, qui est parfaite pour les débutants, puisqu'elle est moins onéreuse et elle permet d'avoir plus de couleurs pour tester. D'accord. Pour s'entraîner, etc. Et tout en étant moins onéreuse, elle reste tout à fait convenable en termes de couleur et de remplissage des feutres. Personnellement, je fais toutes mes démonstrations avec en magasin. Quand on a des ateliers où les gens veulent faire du feutre à alcool, ils se servent de cela et j'ai rien à leur redire. Je trouve que les mélanges sont faciles en s'y prenant bien, toujours. Hein, l'utilisation du feutre à alcool nécessite un petit apprentissage quand même. C'est un petit peu particulier à utiliser. Mais oui, qu'ils utilisent des grandes marques connues comme ProMarker ou Copic ou des Mona Lee, ils arrivent à faire la même chose. Il n'y a que la pointe qui change vraiment le résultat.
D'accord, ok. Donc, du bon papier, des bons feutres, et la base de tout ça, l'observation.
Oui.
Bien, voilà. Peu importe finalement ce qu'on dessine, c'est souvent quand même ça la base.
Mais surtout pour le feutre à alcool, puisque si on attaque le feutre à alcool sans savoir comment ça fonctionne, on va mettre les couleurs les unes à côté des autres et attendre qu'elles se mélangent toutes seules. Ça marche pas comme ça, c'est pas du tout comme de l'aquarelle. Et du coup, effectivement, ça va nécessiter l'observation de quelqu'un qui le fait.
D'accord.
Personnellement, moi, quand j'ai voulu me lancer dedans, j'ai d'abord été sur YouTube pour regarder pour regarder des timelapses. C'est les gens qui filment leur espace de travail pendant qu'ils font un travail quelconque et qui mettent ça en accéléré ensuite à disposition sur Internet. Et j'en ai regardé énormément. Et en fait, regarder les gens faire, ça nous apprend forcément des petites astuces. Ah bah là, il a fait ça comme ça, moi je l'ai posé à côté, j'attendais que ça se mélange. Non, il faut les superposer, il faut les forcer à se mélanger, etc.
D'accord.
On apprend énormément en regardant les gens faire. Alors bien sûr, si vous avez un Cultura pas loin et qui propose des ateliers Beaux-Arts avec des initiations au feutre à alcool, ce sera encore mieux, puisque là vous avez quelqu'un pour vous expliquer, vous montrer comment ça fonctionne. Et vous le faire faire, ça évite d'apprendre en ayant mal compris le sujet. Et là, s'il y a quelque chose qui va pas, on peut vous le redire, on peut vous remontrer, etc. C'est encore mieux s'il y a quelqu'un qui peut vous apprendre.
Ouais, c'est sûr, ouais. Ok, génial. Est-ce que tu as des comptes Instagram, par exemple, à nous recommander, ou un compte YouTube aussi?
Alors, YouTube, pas vraiment. J'avais eu du mal à l'époque, mais du coup, c'est pas d'hier, à trouver des comptes qui montraient vraiment du feutre à alcool, mais aujourd'hui, je vais pas souvent sur YouTube, faute de temps, hein, puisque je travaille mon illustration à côté, donc j'ai pas beaucoup de temps libre, on va dire. Alors, sur Instagram, en matière de marqueur à alcool, il y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Yoai Hime, Yoaihime. Elle fait beaucoup de chibi, donc c'est des personnages manga vraiment tout petits avec une grosse tête et des yeux énormes.
Ah, mais ma fille elle fait ça.
Et ça m'étonne pas, le chibi c'est adorable, du coup ça donne encore plus envie d'en faire. Et du coup elle fait ça avec des marqueurs à alcool, avec toujours une palette de couleurs assez restreinte.
D'accord.
Et c'est hyper mignon. Mais vraiment, c'est tellement chou à chaque fois qu'elle fait quelque chose, et les couleurs sont très très douces, les couleurs qu'elle utilise sont assez douces, et se marient bien entre elles, et c'est vraiment adorable, ça donne envie d'essayer, tout simplement.
D'accord.
Et puis c'est très bien fait, c'est vraiment bien.
Et puis je crois que t'avais aussi un compte, oui, français cette fois-ci.
Voilà, un autre compte que je recommande, qui est une artiste française et une amie d'exposition, qui est Dragibuse. Dragibus avec un Z à la fin.
D'accord.
Elle fait, en exposition en fait, elle fait du dessin animalier au marqueur à alcool. C'est-à-dire qu'en exposition, vous arrivez sur son stand, vous lui donnez une photo de votre animal de compagnie ou votre animal préféré, et en quelques minutes, sous vos yeux ébahis, elle va en faire un portrait complètement adorable et coloré au marqueur à alcool. Et ça c'est une expérience assez incroyable aussi, de voir la personne faire en 10 minutes quelque chose que en 2 ans vous vous sentez pas de le faire. et on voit la magie du marqueur à alcool qui permet une couleur à la fois précise, vibrante et très très efficace en finalement assez peu de temps quand on le manie bien.
D'accord, ok. C'est ça pour toi la différence entre les feutres de base entre guillemets que nos enfants ont dans leur trousse et les feutres à alcool pour dessiner. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font du coloriage aussi. Alors, je sais pas si les gens qui sont fans de coloriage pour se détendre font avec des crayons de couleur ou avec des feutres.
Les deux.
Et du coup, si tu fais du coloriage, là, tu utiliserais aussi les feutres à alcool? Ça a du sens de faire avec des feutres à alcool?
Bien sûr. En fait, à la base, le marqueur à alcool, ça a été inventé, c'est très très récent, ça a été inventé fin des années 80, si je dis pas de bêtises. Et c'était, au départ, c'était pas du tout quelque chose pour le public, pour le dessin de manga. Au départ, ça a été créé pour les professionnels, pour l'architecture et pour le dessin de mode également.
D'accord.
L'intérêt de ces feutres-là, c'était que au tout départ, c'était les premiers feutres à proposer une capacité de repasser au même endroit sans qu'il y ait de traces de feutre.
Ah,
une capacité à mélanger les couleurs de manière extrêmement fluide. Quand c'est bien fait, sur un dessin au feutre à alcool, tu ne vois aucun trait. Tu vois que des aplats de couleurs, des dégradés, tu vois que des couleurs, tu as l'impression que ça sort d'un ordinateur et que ça a été fait au dessin numérique, en fait.
D'accord.
C'est ça l'intérêt premier du marqueur. Et du coup, plus tard, tout le monde s'est rendu compte que pour la BD, ce serait génial. Quand on peut pas faire sa BD sur en coloriant sur ordinateur, etc., quand on veut pas la faire à l'aquarelle, le marqueur à alcool, c'est une bonne solution.
D'accord, ok, bon ben super. Donc il y a une opération en ce moment qui s'appelle Ouf de Japon, c'est bien ça ?
Au niveau du Beaux-Arts, on va mettre en avant tout ce qui est culture japonaise dans l'art visuel.
D'accord.
Donc, en ce moment, ce qui cartonne dans les arts visuels japonais, c'est le manga. Quand je dis en ce moment, c'est depuis une quinzaine d'années, facile.
D'accord.
On n'en démord pas. Ouais. Les jeunes, génération après génération, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est du manga, du manga, du manga. Pour leur fournir ça, du coup, on met les moyens du feutre à alcool, qui est vraiment devenu des feutres manga. On n'est plus du tout sur des feutres pour l'archi, des feutres pour la mode. C'est devenu une référence. On ne dit même plus feutre à alcool ou marqueur à alcool. Maintenant, on dit feutre pour le manga.
Ah
tout le monde me demande directement ça.
D'accord.
Donc, effectivement, on va pouvoir présenter les différentes marques, les différents papiers, ce que les différentes marques ont de différent les unes par rapport aux autres au niveau performance, au niveau proposition du nuancier de couleur, proposition des feutres liner pour faire le noir autour de la couleur. Ouais. Et aussi tous les accessoires dont on peut avoir besoin pour dessiner ses propres mangas. Et donc, quand je dis manga, c'est pas forcément le dessin style couverture, ça va être aussi les pages de manga. On a un endroit avec des traces bulles pour aider à créer les bulles qui vont contenir les paroles des personnages, etc. On a des trames de motifs, puisque dans les mangas qui, à la base, rappelons-le quand même, sont en noir et blanc, à l'intérieur, aujourd'hui c'est manga couleur partout, mais à l'intérieur du livre, c'est bien de noir et blanc. Et donc on a des trames de motifs qui permettent, en fait, de, comme des décalcomanies, d'appliquer une trame à l'intérieur d'un, par exemple sur une jupe en motif écossais, on a ce genre de trame.
Ah oui, d'accord. Ok, pour faciliter un petit peu le dessin.
C'est ça.
D'accord.
Pour le rendre un petit peu d'aspect plus professionnel, on va dire.
Ouais, d'accord. Ok, bon bah génial, bah, écoute, c'est hyper intéressant. Ah oui, Pierre, dernière petite chose aussi que tu m'as confiée avant qu'on lance l'enregistrement. Tu disais qu'il fallait apprendre à dessiner sans déformer au départ les visages. Est-ce
oui,
que j'ai
c'est
bien retenu ?
Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on me demande souvent des livres pour apprendre à dessiner le manga.
Voilà, et... on a oublié de parler des livres.
Oui, c'est ça. Et je réponds toujours par une autre question qui est, est-ce que votre enfance a déjà dessiné tout court ?
Oui.
Avant de dessiner manga. Et quand on me dit non, eh bien souvent c'est un petit peu déceptif et j'en ai conscience, mais je reste sur ma position parce que c'est très important. Avant d'apprendre à dessiner du manga, il faut absolument apprendre à dessiner normalement. Parce que le manga, c'est rien d'autre qu'un style extrêmement déformé.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on prend les visages humains et on leur donne un menton ultra pointu, ou si on analyse avec un vrai crâne à côté, il n'y a absolument pas de place pour les dents à l'intérieur de ce menton pointu. On leur met des yeux qui sont absolument immenses, qui rendraient un crâne extrêmement flippant. etc. Et du coup, on est vraiment dans la déformation et dans l'exagération dans les mangas. Si on apprend directement à dessiner comme ça, on va rester coincé dans ce style parce qu'on ne pourra pas former nos personnages autrement. Si on veut un jour dessiner du réaliste et qu'on part avec des bases manga, ça va avoir une drôle de tête. D'ailleurs, je soupçonne le chibi d'être né comme ça. Du coup, je conseille vraiment d'aller vers les livres, certes un petit peu moins attrayants d'anatomie. Alors, je vous dis pas qu'il faut un livre d'anatomie en livre de chevet et qu'il va falloir le lire de A à Z, mais plus en appui. C'est-à-dire que si vous avez ce livre d'anatomie qui est là quelque part dans une étagère et que vous dessinez un personnage et vous bloquez sur l'épaule, vous allez chercher votre livre d'anatomie, vous l'ouvrez à la page de l'épaule et vous voyez comment sont faits les os à l'intérieur de l'épaule, comment les muscles sont enroulés autour des os, comment la chair est dessus, etc. Et avec ça, vous pouvez plus trop vous tromper sur la forme réelle que doit avoir une épaule, parce qu'en ayant juste regardé cette page-là, vous avez compris comment une épaule est faite, et par la suite, vous allez savoir les dessiner sans avoir besoin d'y revenir. Et c'est petit à petit que vous savez à peu près tout ce qui peut vous être utile pour dessiner correctement des personnages de manga anatomiquement corrects. Et une fois que vous savez dessiner de manière normale, avec des proportions plus ou moins normales et réalistes, vous pouvez les déformer en faisant les yeux plus grands, en faisant les mentons plus pointus, etc., pour avoir un rendu plus manga.
D'accord. Bon, bah écoute, super conseil, je vais m'empresser de... Alors, je pense que même je ferai carrément écouter l'épisode à ma fille. Comme ça, elle pourra t'écouter plus que de me faire confiance aveuglément, parce que...
Bah, ça appuiera ce que tu dis.
Voilà, parce qu'une ado n'écoute plus sa maman.
Du coup, s'il y a bien un livre que je peux conseiller en matière de dessiner des mangas, c'est Dessiner des mangas avec Asia. C'est un livre déjà qui est très beau. par rapport à ce qui se fait à côté, qui est très très un manga sur un fond blanc, là on a vraiment un univers avec. Et alors Asia, c'est une jeune fille qui présente son parcours, plus que vraiment il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Le « il faut », ça existe pas beaucoup en dessin. Il y a plusieurs manières d'arriver au même résultat, il faut juste trouver la manière qui fonctionne pour chacun. Et elle explique son parcours, et surtout elle explique ses erreurs. Les erreurs qu'elle a faites et qui lui ont fait perdre du temps dans son développement artistique, que vous pouvez du coup éviter de faire. Elle explique les astuces qui lui ont été utiles, et elle montre vraiment le développement, elle montre des dessins de quand elle était toute jeune, et puis au fur et à mesure, comment elle s'est développée, comment elle a développé son style. C'est très beau, c'est très pédagogique, et c'est vraiment beaucoup plus utile, à mon sens, qu'un livre qui va vous dire, pour le manga, il faut faire ça.
Oui, avec toutes les étapes un peu pas à pas, c'est ça ?
C'est ça.
Oui, d'accord.
Je vois. Elle explique tout, je la trouve très pédagogique, et en plus, c'est vrai que son univers est très 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 joli, donc vraiment, ça vaut le coup.
Ok, et eh ben écoute, je vais m'empresser d'aller regarder tout ça. Merci beaucoup, Isa.
Mais
et puis, donc on te retrouve au magasin de Creil, évidemment. Si on écoute l'épisode et qu'on est à Creil, on vient de te dire bonjour dans le rayon.
Bien sûr, il n'y a pas de problème.
Obligé.
Moi, je suis là pour les renseignements, pour les ateliers Beaux-Arts,
oui,
spécialisés feutre à alcool, il n'y a pas de problème. Et pour les petits conseils en rayon.
Très bien. Merci beaucoup, Isa. À bientôt.
Je t'en prie, merci.
Me revoici. Très intéressant comme sujet, j'ai trouvé. J'espère que vous partagerez avec nous vos réalisations au feutre à alcool sur culturacrea.fr. Comme d'habitude, vous retrouvez les références de ce dont on a parlé dans l'épisode sur la page du podcast sur le site culturacrea.fr. Et si l'épisode vous a plu, laissez-nous une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Je compte sur vous. Je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.